Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse, où que vous soyez actuellement, hein, nous suivant sur la 93.5. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Et là, d'aucuns parlent même d'ailleurs de la messe quotidienne. Merci hein, pour cette fidélité à notre radio, j'allais dire votre radio. Ce qui fait l'actualité ces derniers temps, c'est la direction de Sunu Bank Togo qui a procédé vendredi 22 août 2025, bien sûr, au licenciement alors de 42 employés, et dont le secrétaire général de du Saint Bank pour motif économique, a-t-on appris. Et ces licenciements ont été effectués selon les syndicats en violation de toute disposition réglementaire. Face à cette situation, le bureau exécutif de Saint Bank, syndicat des banques, bien sûr, et de Sinassure, syndicat des assurance, a décidé d'organiser une action de protestation d'envergure nationale, ce qui a été suspendu de justesse par le gouvernement togolais qui a amorcé justement une négociation entre les deux parties. Et qu'est-ce qui explique le licenciement alors de ce nombre d'employés au niveau alors de Sunu Bank? Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons l'aborder et ce serait bien sûr avec Emmanuel Forson. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM. Et
j'espère que vous allez bien.
Bon, ça va, ça va.
Je rappelle que vous êtes le chef département marketing et communication de Sunu Bank. Nous allons décrypter l'actualité telle que je l'ai évoquée tout de suite concernant justement le licenciement lors de ces 42 employés de Sunu Bank. Nous allons en parler et je sais que vous êtes prêt quand même à répondre à nos questions.
Nous ferons l'essentiel.
C'est l'essentiel, justement. Merci. Nous allons aborder aussi d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse avec mes confrères journalistes qui sont en studio avec moi. Et merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 28 août 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takwame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités. Confrères journalistes, Michel Yaoutsadza, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Canal FM. Je voulais profiter de cette occasion pour envoyer un salut fraternel à tout le personnel de l'INSID Togo, c'est-à-dire l'Institut National de la Statistique, à son directeur, M. Diandré Akoli. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une institution stratégique dans la planification du développement au Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir également que cette institution est placée sous les ailes directes du ministère de la planification, qui lui-même est logé anciennement à la présidence de la République, c'est-à-dire aujourd'hui présidence du Conseil. C'est pour dire que c'est un service essentiel, capital pour l'élaboration des politiques de développement dans notre pays. Donc je voulais profiter de cette occasion pour saluer tout le personnel de cette institution.
D'accord, merci beaucoup Michel d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Ouara les Vainqueurs, Ambroise Yao Konzo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour.
J'espère
à tous.
Que vous allez bien.
Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Et j'estime que la période n'est pas tellement propice à ceux qui sont sensibles au froid. Le froid qui a commencé depuis le mois de juin jusqu'à ce mois d'août, bientôt début septembre, est en train de créer beaucoup de dégâts dans les ménages, dans les familles. Certains sont sensibles, ceux qui souffrent du rhumatisme, ceux qui sont très sensibles au froid, tous ces gens-là qui ont été à la traumato ces derniers temps ou ont eu des accidents, et ceux qui sont pas forcément des asthmatiques. Mais il y a qui sont des âmes très sensibles à ce froid qui est vraiment inédit, et je me pose beaucoup de questions si c'est lié au changement climatique. C'est vrai que les problèmes de canicule aussi ont gagné la France, l'Espagne, le Portugal et d'autres pays de l'Occident. Mais j'ai comme aussi l'impression que l'Afrique est plus béni que les autres continents, hein, parce que le froid qui est ici, c'est pas ça qu'on retrouve en Occident. Et quand ça fait chaud aussi ici, ce n'est pas la même chose qu'on retrouve en Occident. Là, c'est les canicules, les gens meurent en cascade comme des mouches. Et donc, moi, je demanderai tout simplement à ceux qui sont au Togo, surtout dans les zones les plus froides comme Koumakonda, les Kouma et tout ça, la zone de Palimé, d'avoir des habits qui les protègent le plus, surtout les enfants. Bon, les enfants ont un sang qui est répulsif au froid, c'est vrai, mais de protéger surtout en cette période de moustiques aussi, sur la question du paludisme.
D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de publication du journal des Guadiens. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'autre aussi qui a accepté notre invitation, c'est bien Magula Kinviteko. Magula, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères Michel et Ambroise. Bonjour à tous les fidèles auditeurs qui nous suivent actuellement sur Radio Canal FM, la nouvelle génération.
Journaliste et directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates, merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je vous le disais, notre invité ce matin, c'est bien Emmanuel Forson. Il est chef département marketing et communication de Sono Bank. Et nous allons discuter de l'actualité, cette actualité qui est dominée par ce licenciement alors de 42 personnes à Sono Bank. Alors, Emmanuel, d'abord, comment se porte aujourd'hui Sono Bank?
Merci beaucoup, Pascal. Je salue en tout cas tous les illustres invités qui sont autour de la table sur cette émission. Sono Bank, je peux dire que Sono Bank se porte bien parce que nous continuons pas à délivrer les opérations, les agences sont toujours ouvertes, les clients passent, et actuellement même nous sommes en train de payer depuis hier les salaires des fonctionnaires, les crédits continuent d'être délivrés, donc je peux dire que ça va, nonobstant le plan de restructuration qui est en cours, sinon toutes les opérations continuent d'être délivrées normalement.
D'accord, toutes les opérations continuent d'être délivrées, mais ce qui est sûr, comme on le dit, il y a le ver dans le fruit. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à Sono Bank, puisque nous avons commencé par écouter plus parler alors de ces derniers temps, surtout avec cette question alors de licenciement 42 personnes, vous parlez de plan de restructuration, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Alors, il se passe que Sono Bank Togo a lancé un plan de restructuration qui en lui-même comporte plusieurs compartiments, plusieurs étapes. Il y a eu des décisions assez stratégiques qui ont été prises, je veux dire, depuis le groupe, ensuite par le conseil d'administration, et qui sont en phase d'être délivrés. Dans cette décision-là, on a par exemple la fermeture de certaines agences que nous avons effectuées en début d'année. On a le changement de certains postes, c'est-à-dire qu'il y a certains postes qui vont être supprimés et d'autres départements qui vont être réorganisés. Et pour finir, le troisième point était de se séparer d'un certain nombre de collaborateurs. C'était une décision assez difficile qui était sur le tapis quand même depuis un certain nombre d'années parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sunu Bank a été repris qui est né, du rachat de la BPEC. Et donc, du coup, à ce moment précis, il y a des audits qui ont été faits, il y a un certain nombre de points qui ont été identifiés et donc des actions qui devaient être menées. Mais fidèle à sa politique ou à ses engagements et à ses valeurs, le groupe Sunu qui a racheté donc la BPEC en ce temps n'a pas voulu faire un certain nombre de réajustements parce que justement au niveau du groupe, la valeur c'était de pouvoir faire confiance aux hommes et aux femmes qui faisaient la banque. Donc on est vraiment allé dans ce sur cette lancée là, mais il se fait que à un moment donné les charges de la banque devenaient assez excessives et il fallait prendre des décisions. Il fallait vraiment aller à ce plan-là parce que ça devenait quand même très, très problématique. Donc, il y a ce plan-là qui est en train d'être délivré. Et donc, malheureusement, on a dû se séparer d'un certain nombre de collaborateurs et dont vous avez eu l'information récemment.
Mais justement, vous vous êtes séparé alors d'un certain nombre de collaborateurs. Mais ce qui est justement sur les lèvres alors de beaucoup de personnes, c'est que déjà au sein de la banque, il y a certains quand même qui sont à un salaire exorbitant. On parle même d'ailleurs de 10 millions pour certains. Et ce sont peut-être alors des menus frétins qui ont subi le coup. Est-ce que c'est vraiment cela?
Je ne pense pas du tout. Comme je le disais, c'est un plan qui était sur le tapis depuis un certain nombre de temps et les discussions avaient déjà été lancées avec le délégué du personnel et le Saint-Banc. Et donc, ce n'est pas un plan qui vient de naître. Et du coup, parler de salaires exorbitants, personnellement, moi, j'ai pas de preuves par rapport à ça, donc je ne pourrais pas m'avancer dessus. Mais je sais que c'est un plan qui était sur le tapis depuis, et depuis lors, avec en tout cas les actions des délégués du personnel aussi du Saint-Banque, qui essayaient de pouvoir jouer leur rôle et de permettre à ce que ce plan-là puisse être délivré autrement, n'est-ce pas, pour sauver le maximum de postes possibles, de collaborateurs possibles. Et vraiment, on leur tire vraiment nos chapeaux parce qu'ils ont fait un travail énorme. Parce qu'on parlait d'abord de 110 personnes qui devaient être remerciées, mais avec l'impact ou les actions du Saint-Banque et des délégués du personnel ainsi que du gouvernement, ce nombre-là a été réduit à 42 aujourd'hui. Donc non, je ne pense pas que c'est une histoire de salaire exorbitant, d'autant plus que c'est des histoires ou bien c'est des faits qui ne sont pas seulement liés à notre corporation, mais qui sont dans plusieurs métiers également. Ce n'est pas seulement la banque où on parle de ce type d'écart là. C'est aussi dans d'autres structures, dans d'autres métiers. Donc, on ne va pas forcément faire le focus sur ça. Je pense que le plus important, c'est la viabilité de la banque. Comment est-ce que la banque arrive à être viable, à être rentable, non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour les hommes et les femmes qui font la structure.
Mais la raison évoquée pour ce licenciement alors de ce nombre alors de personnes est que c'était par motif économique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas vague cette question alors de motif économique?
Oui, je pense que nous avions nous avons publié récemment un communiqué qui a expliqué point par point où est-ce que on est parti et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc on disait que le groupe a racheté la BPEC qui avait déjà un passif assez lourd, qui était très endetté. Donc le groupe a injecté beaucoup de fonds pour pouvoir racheter la BPEC et donc restructurer déjà la banque. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits justement pour pouvoir relever le niveau de la banque dans le temps. Et donc, des années faisant, il y a quand même en termes de PNB, on a quand même réussi à faire de très bons PNB, mais on n'était pas bon sur le résultat net. Ok, parce que quand on finit, on voit que le coefficient d'exploitation était toujours exorbitant. C'est-à-dire que, en termes simples pour nos auditeurs, c'est comme si je gagne 100 francs, mais je dépasse à la fin du mois 150. C'est-à-dire que j'ai des ressources. Voilà, il y a toujours et ça c'est chaque mois, ça s'accumulait. Je gagne toujours mes 100 francs, mais à chaque fois, il y a toujours ce déficit-là qui arrivait. Et donc, à un moment donné, il faut quand même prendre des décisions, il faut quand même aller à l'essentiel. C'est un peu ça. À un moment donné, le coefficient d'exploitation était arrivé à un seuil où il fallait vraiment répondre aux ratios qui sont prévus par notre corporation, parce qu'on est régi par des règlements clairs, hein. On est quand même en banque. Et il faut pouvoir respecter un certain nombre de ratios. Et on n'était pas bon sur ce ratio-là. Et aussi sur les fonds propres même de la banque, ça commençait pas véritablement à être très, très dégradant. Donc, il fallait véritablement aller à ce plan-là pour pouvoir sauver, en tout cas, le plus de postes possibles et rendre la banque beaucoup plus viable pour ceux qui travaillent, mais aussi pour les actionnaires.
Vous étiez obligé alors de prendre cette décision qui est considérée même d'ailleurs très lourde et aussi contraignante. Hein. Et maintenant, au-delà de tout, il y a d'aucuns quand même qui reprochent à la procédure même d'ailleurs de licenciement un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on se dit, mais par huissier interposé, on a compris quand même que les huissiers sont partis déposer même d'ailleurs la note de licenciement dans des maisons pour ses employés. Est-ce que ça a été le cas? Puisque nous avons vu quand même des vidéos qui ont circulé.
Oui, effectivement, nous avons vu les vidéos aussi et c'est des situations qu'il faut quand même déplorer. Mais à notre niveau, on n'a pas forcément les éléments probants pour pouvoir apprécier. C'est vrai, nous tous, on a vu la vidéo, mais on ne voit pas forcément ces huissiers-là aller véritablement déposer. C'est vrai qu'on a vu des vidéos où on a dit que voilà, c'est des huissiers, mais on n'a pas véritablement des preuves. Donc, du coup, nous, on n'est pas forcément les mieux placés pour dire qu'effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la banque, quand même, fait partie d'un grand groupe, un groupe qui est très à cheval sur la responsabilité sociétale et donc qui met le personnel au centre de sa stratégie. Donc, du coup, le groupe ne peut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre du non-respect des droits ou de l'intimité du personnel. Les huissiers avaient été commis surtout pour gérer le côté, réglementaire. Pour être sûr que tout ce que nous faisons ou tout ce que la banque était en train de faire respectait la réglementation ou les lois en vigueur dans le pays. Et c'est pour ça que les huissiers avaient été invités dans un premier temps. Et ce n'était pas pour aller remettre les avis directement au personnel, mais il s'est fait que beaucoup de collègues, et c'est normal, hein, avaient refusé de recevoir déjà, mais dans un premier temps, de rentrer dans une discussion avec la direction générale qui les avait invités dans un premier temps pour échanger sur ce licenciement-là et aussi leur expliquer encore plus en mieux à l'âge pourquoi cette décision a été prise. Mais malheureusement, à cette réunion-là, les collègues n'étaient pas venus. Du coup, c'est à ce moment-là que les huissiers sont un peu intervenus. Et c'est plus aussi à Lomé qu'ils étaient intervenus. Et ils devaient aussi aller au niveau des agences à l'intérieur du pays pour pouvoir discuter directement avec les chefs d'agence qui, à leur tour, devaient gérer avec nos collègues. Mais malheureusement, là-bas aussi, ça ne s'est pas très bien passé. Et c'est à ce moment-là que les huissiers ont commencé par appeler nos collègues directement pour pouvoir leur remettre les avis. Et ça s'est passé comme on a eu les retours et tout. Et c'est une situation que nous tous nous déplorons. Mais les huissiers, en tout cas, ils étaient dans leur rôle, ok. Comme le Saint-Banque aussi jouait son rôle, la banque joue son rôle, le conseil d'administration joue son rôle. Les huissiers aussi étaient dans leur rôle et dans la légalité. de ce qu'ils peuvent faire et dans la limite de ce que la loi leur permet de faire. Et donc, je pense que ce n'est pas véritablement dans cette logique-là de pouvoir, je vais dire, menacer ou aller vraiment à l'encontre, hein, n'est-ce pas, de ce qui est prévu en dehors de la loi. Mais ils sont véritablement, ils ont essayé d'agir aussi.
Justement, agir, mais jusqu'à aller dans la maison alors des personnes, c'est-à-dire aller pousser la personne jusqu'à son dernier retranchement, est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui n'est pas concevable, Emmanuel?
Bon, moi, je pense que je n'ai pas forcément la prétention de juger de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Je pense que si on avait peut-être un huissier devant nous, on pouvait lui poser la question de savoir, en ces cas-là, qu'est-ce qui est fait, ou bien qu'est-ce qui est demandé, ou qu'est-ce qui est prévu par la loi, ou qu'est-ce qui ne devait pas être fait. Bon, nous, on a fait confiance à des huissiers qui sont, en tout cas, qui sont... dans la limite de ce qui est prévu par la réglementation, qui sont bons, qui font le travail. Et donc, c'est en ce sens-là que la banque leur a fait confiance et leur a confié le dossier. Donc, du coup, en pensant qu'ils ont fait le travail normalement selon ce qui est prévu.
D'accord. Je sais que mes confrères ont des questions à vous poser, mais cette dernière question, avant de donner l'opportunité à mes confrères, c'est sur quels critères, hein, ces personnes qui ont été licenciées, enfin, le choix a été fait par rapport au licenciement?
Bon, en termes de critères, pour ne pas frustrer les collègues, je ne vais pas m'aventurer à donner certains critères ici. Mais je peux vous dire que tout a été fait en symbiose, en synergie avec les délégués du personnel et le Saint-Banc. Il y a une liste qui avait été fournie, il y a des informations qui leur ont été données. Et c'est ensemble qu'ils devaient normalement pouvoir valider tant ou truc. Chacun était dans son rôle. Le Saint-Banc, et nous le tirons vraiment notre chapeau aussi, a fait ce qu'il devait faire pour pouvoir empêcher que nous allions jusqu'à cet extrême-là. Et la banque aussi donnait ses informations, donnait ses raisons, pourquoi il fallait le faire. Et je pense que c'est dans cela que nous sommes arrivés à cette décision finale-là.
Alors, est-ce que ça veut dire que tout a été fait dans la règle de l'art et que c'est le respect de la législation quand même prévue?
Oui, bien sûr, totalement. La banque n'a pas intérêt, en tout cas, à ne pas respecter la loi. Nous savons ce que nous encourons, comme je l'ai dit. Nous sommes dans un secteur qui est très bien réglementé, donc la banque n'a pas intérêt à faire à prendre des décisions qui vont lui causer des problèmes après, quoi. Donc c'est pour ça même que ça a pris du temps, comme je vous le disais. C'est un sujet qui était sur le tapis depuis un moment.
Oui, allez-y.
Donc c'est un sujet qui était sur le tapis depuis un moment et donc du coup c'est justement pour pouvoir respecter cette réglementation là et toutes ces étapes qui étaient prévues dans notre loi et qui a fait que le plan a pris plus de temps que prévu. Donc tout a été réglé, tout a été géré vraiment en respect des processus qui sont prévus par les lois togolaises en la matière.
D'accord. Et merci, Emmanuel. Michel, vous avez une question pour Emmanuel, peut-être? Oui, la
non,
question.
En entendant les confrères pour poser leur question, je vais revenir.
D'accord. Ambrose, une question ou
Bon, moi, j'ai d'abord des... Comment on dit ça? J'ai des questions, mais j'ai aussi... mon point de vue sur le sujet.
Oui.
J'ai suivi l'invité avec brio et j'ai eu à recouper quelques informations. D'abord, j'ai appris que la banque est dirigée par des étrangers. Ça ne me pose pas grand problème. Et en plus, il y a la décision de restructuration et donc de licenciement ne concerne que les Togolais. Alors qu'il y a plusieurs nationalités aussi sur la banque, les Béninois sont nombreux là-bas. Il va le confirmer tout à l'heure. Et pourquoi c'est les Togolais en majorité, c'est-à-dire c'est les Togolais qui ont été licenciés. Ça, c'est un de deux. Avant que la décision de la restitution n'intervienne, il y a eu un problème. L'information que nous avons, c'est qu'il y a eu dilapidation des fonds, il y a eu mauvaise gestion. Et donc, la commission bancaire a eu à auditer et la banque qui a révélé des écarts de chiffres, qui a révélé plein de dysfonctionnements et qui d'ailleurs a amener les dirigeants à restituer. Tu as bien parlé de des gens qui ont plus de qui sont à plus de 10 millions de francs. Moi, je n'ai rien contre parce que c'est pas la grille salariale de ces banques qui ont une connotation internationale. Et il y a comme l'impression qu'il y a aussi des intérêts croisés qui sous-tendent tous ces problèmes-là. Donc, tu as si bien posé une de mes premières questions, c'est le fait que les gens ont mal géré la banque et c'est les menus fretins, c'est les agents, les simples agents qui vont payer le prix à quelques jours de la rentrée. Maintenant, le ministre a rencontré le lundi, je crois, les différents protagonistes.
Oui.
Et qui a dû suspendre la grève. Alors, ils ont dû créer une commission pour suivre la question. Et cette question-là, est-ce que ça va ramener les 40 personnes au boulot ou c'est pour pouvoir définir les modalités de paiement des indemnités de licenciement pour le départ? On parle aussi des motifs économiques. Motifs économiques, mais la banque va survivre. Pourquoi on ne liquide pas la banque? Et c'est plutôt une question de restitution pour permettre à la banque de continuer. Et forcément ne pas s'en foutre de ceux qui restent. Il a dit que ce sont 10 personnes qui devront partir. Maintenant, c'est 42 qui sont en train de partir. Il y a tellement de flou dans l'histoire. La dame, madame Adotevi, qui avait géré la banque, il y a eu des gens à Tapamé qui ont eu des problèmes. Ce matin, en venant en face du camp d'Adido Gomé, j'ai vu des gens s'attrouper devant la banque, ce qui signifie que les clients déjà ont peur que la banque tombe dans la liquidation. Et c'est le risque que court la banque, c'est que les clients aillent chercher leur argent. Et là aussi, il faudrait qu'on dise aux clients que la banque n'est pas liquidée, que la banque vit toujours. Mais ce qui est essentiel, c'est de ramener les 40 personnes, les 42, qui sont partis à regagner leur emploi. Parce que là, les gens vont mourir. Hein. 42 personnes qu'on est en train de parler là. Parmi eux, il y en a qui nourrissent plusieurs familles. Ça va créer des problèmes. J'ai l'impression que c'est au Togo seulement qu'on vit. On ne peut pas faire ça au Bénin, hein. Encore moins au Sénégal. Donc moi, c'est mon avis sur la question. Et en même temps, au moins deux ou trois questions que j'ai posées, je crois que l'invité a dû les noter.
D'accord.
Merci.
Oui, Emmanuel?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est des questions qui sont totalement légitimes et nous tous nous posons beaucoup de questions et c'est normal. Et moi, en tout cas, au niveau de Sounou, ça prouve que voilà, c'est un sujet qui est très important pour nous tous. Et vous allez voir que même au début, quand la crise plus ou moins a commencé, le groupe n'avait pas voulu communiquer parce que pour nous c'était un sujet assez délicat et on parle quand même, comme l'a dit le frère, que c'est des personnes qui nourrissent encore d'autres personnes et donc du coup on peut pas venir expliquer. Pour nous c'était pas concevable, mais il fallait quand même qu'on vienne parce que nous sommes dans un secteur assez critique et comme il a dit, il faille quand même rassurer les clients que la banque continue pas à délivrer totalement. Effectivement, elle a parlé tout à l'heure des clients qui étaient au niveau de la banque. Je le rassure, c'est pas du tout pour racler leur compte, mais nous sommes en plein dans le paiement, je l'avais dit au début, nous sommes en plein dans le paiement des salaires pour les retraités, les fonctionnaires et autres. Donc c'est normal, c'est notre période d'affluence en ce moment. Donc les gens viennent voilà pour prendre le salaire et tout ça. Donc c'est assez normal. Donc je le rassure et je rassure tous les clients que voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, après, sur les travaux de la commission bancaire, oui, la commission bancaire est venue faire son audit et tout. Et il y a quand même un premier jet de rapport qui a été envoyé et des demandes qui ont été faites au niveau de la direction générale qui sont en train de répondre. Et après, je pense que la commission bancaire même va publier le rapport et puis à ce moment-là, je pense qu'on aura le temps de toujours commenter pour voir qu'est-ce qui est véritablement fait au niveau de la banque. Est-ce que ces allégations de mal gouvernance et tout ça sont vraies, sont avérées? Je pense que la commission bancaire, le rapport de la commission bancaire nous dira un peu plus. Mais ce que je voudrais rassurer quand même que depuis que le groupe Sounou a repris la banque, sur les trois premières années, on a vu que il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, le PNB était quand même bien parce que les performances allaient. C'est au niveau des charges qu'on avait un souci et aussi au niveau de la dégradation de nos ressources personnelles, en fait, les ressources de la banque. Ok, et c'est à ce niveau-là qu'il y avait eu quelques trucs là. Sinon, en termes de réalisation, on était quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si j'ai 100 francs, mais à chaque fin du mois, je dépense 150. Donc, à un moment donné, il faut que je réduise les charges. Et c'est ce que nous essayons de dire tout à l'heure, que les coefficients d'exploitation n'est pas bon, et le ratio aussi de conformité par rapport aux ratios qui sont demandés au niveau de notre réglementation n'était pas vraiment aligné. Donc c'est à ce moment-là que, parce que si on continue comme ça, si on liquide la banque, c'est que c'est tout le personnel qui part, c'est les apports de tout un pays qui commence pas à avoir des problèmes. Donc nous avons tous intérêt à ce que Sounou Bank vive et que Sounou Bank perdure dans le temps. Et c'est vrai que les décisions sont difficiles, nous le disons, nous l'assumons, nous le comprenons. Mais il s'agit ici véritablement de gérer la pérennité de la banque et de faire en sorte que cette banque reste viable et que même les collègues qui partent aujourd'hui peut-être même peuvent se revenir après, ou même leurs enfants ou même leurs petits-enfants. Donc nous sommes véritablement dans cette démarche-là, et nous, en tout cas nous ferons le nécessaire, tout ce qui est de notre possible pour pouvoir en tout cas assurer que cette banque reste viable sur le long terme. Et le groupe a pris l'engagement par rapport à ça, et nous allons faire le nécessaire pour. Est-ce qu'il y a des étrangers qui travaillent dans la banque?
Oui.
Je pense que véritablement, il ne faudrait pas qu'on aille sur ce débat-là. Et il y a plein de Togolais qui travaillent aussi ailleurs. J'en connais plein. Et même dans le groupe, il y a plein de Togolais qui sont dans des postes à très haute responsabilité dans le groupe, dans d'autres pays. Ok, donc je pense que mais ça,
non,
c'est pas vraiment un sujet.
La question, c'est
je ne le demande pas en termes de xénophobie. Je le pose parce que c'est seulement les Togolais qui ont été
licenciés.
Non, même pas, d'accord. Même pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui la liste est disponible, hein, la liste de nos collègues qui ont malheureusement perdu leur emploi est disponible. Vous pouvez vérifier, vous allez voir que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Donc, je vous rassure que ce n'est pas du tout vrai.
Il y a un problème aussi d'ordre social, puisque ça touche les agents de niveau moyen et un peu plus bas. Est-ce que la liste des 42 personnes qui ont été licenciées avait été soumise à l'inspection du travail avant que les deux ministres ne s'en saisissent du dossier?
Oui, totalement. Je l'ai dit au début que tout a été géré, que ce soit avec le ministère, que ce soit avec l'inspection du travail, ou que ce soit même avec les délégués du personnel ou le Saint-Banc. Je pense que à chaque étape, la direction prenait toujours le soin d'informer chaque partie. Et même les mesures d'accompagnement qui avaient été proposées par le conseil d'administration ont été soumises. Ont été soumises au délégué du personnel, au Saint-Banc. Et donc, du coup, le process a été suivi de bout en bout. Et comme je vous ai dit, on est une banque, on n'a pas intérêt à ne pas suivre le process, parce que sinon, on tombe dans des problèmes. Donc, nous, on a intérêt à suivre le process de bout en bout, et on l'a véritablement suivi le processus de bout en bout. Et je pense que le Saint-Banc est vraiment dans son rôle, et nous le disons, nous le comprenons, nous le notons. Et les dégâts du personnel aussi étaient dans leur rôle de se dire qu'il faut qu'on sauve les postes. Mais la banque aussi était dans son rôle de se dire il y a des décisions stratégiques qui ont été prises, et puis il y a un target que nous sommes en train de fixer. Il faut que nous relevons le niveau de la banque, et le groupe aussi a donné ses raisons. Donc à un moment donné, il faudrait que ces différentes parties puissent se retrouver à un point d'accord. Je pense que c'est ce qui a surtout mené à ce que le nombre de personnes qui devaient partir a été largement réduit. Donc, je pense que les efforts ont quand même été faits au niveau de la banque.
Justement, il y a une question que Ambroise a posée entre-temps concernant la négociation que le gouvernement a entamée. Finalement, qu'est-ce qui sortira alors de cette négociation? Est-ce que les 42 personnes reviendront, ou bien c'est juste pour voir les formalités ou tout ce qu'on pourra faire pour que, du moins, c'est qu'ils partent en paix?
Je pense qu'au niveau de la banque, comme je l'ai dit, tout a été fait en respect de la réglementation. Et même avant que les collègues soient signifiés de leur licenciement, Et il y a des mesures qui avaient été proposées et envoyées aux délégués du personnel et aux syndicats. Et donc, même tout ce qu'il y a comme indemnité et autres là ont été payés et calculés selon ce qui est prévu par la réglementation. Et même des mesures d'accompagnement ont été ajoutées. Maintenant, la rencontre avec le ministère, ça, je pense qu'il faudrait peut-être avoir quelqu'un du ministère pour nous dire concrètement. Sinon, la banque est toujours disponible pour pouvoir discuter avec le ministère et même les autres instances de la banque sont toujours en contact avec le ministère, que ce soit le ministère ou l'inspection du travail, et même les délégués et même le Simban pour toujours discuter, parce qu'on ne peut pas rompre le dialogue social en interne, ça c'est pas possible.
D'accord.
Donc la banque est toujours disponible. D'accord. Pour échanger et le groupe est totalement disponible également.
D'accord. Magola?
Oui, je voudrais poser une ou deux questions à notre invité. À le suivre, on comprend suffisamment que tout ce processus a été suivi, hein, je vous prends au mot, dans les règles de l'art, avec l'implication du Saint-Banc, de l'inspection du travail. Alors, comment vous comprenez ce micmac aujourd'hui? Est-ce à dire que vous insinuez justement une mauvaise foi quelque part? Ou comment est-ce qu'on peut expliquer que si le processus a été suivi, a suivi toutes les étapes normalement, que les intéressés reviennent encore avec l'implication active de Saint-Banc et tout ça? Comment on peut l'expliquer? La seconde question, c'est que j'ai envie de vous demander, mais c'est vrai, la banque est en difficulté financière, comme vous l'avez suffisamment dit, mais je crois que face à chaque problème, il y a diverses solutions qu'on peut envisager. Aujourd'hui, vous pensez à la solution de fermeture de certaines agences, de restructuration du personnel et tout, oui, d'accord, mais est-ce à dire qu'il peut y avoir que ces approches-là? C'est-à-dire que quand je prends un exemple, c'est vrai que c'est pas trop la même chose, mais tout récemment au Togo, lorsqu'il s'était agi de la crise énergétique, le gouvernement a décidé, ou du moins, on va le dire, les autorités ont décidé, de sursoir à certains avantages des ministres liés justement à la facture de la société et tout. Est-ce à dire qu'au niveau de Sunu Bank, on ne peut pas envisager également une telle approche, c'est-à-dire qu'on sait que les grands patrons et tout ça, il n'y a pas que le salaire, on parle de 10 millions et tout. Ça, c'est ce qui leur revient par rapport aux fruits de leur labeur. Mais parallèlement au salaire, il y a aussi de ces avantages-là. Est-ce qu'on ne peut pas revoir sensiblement la baisse, sinon mettre un peu en stand-by pour le moment ces avantages pour ne serait-ce que récupérer ça et prendre en charge les 42 peut-être malheureux qui vont peut-être en pâtir?
D'accord. Emmanuel?
Oui, totalement. Je pense que le groupe était véritablement dans cette logique-là. Et comme je le disais, c'est un plan qui était sur le tapis depuis. Moi, j'ai intégré le groupe en 2022, mais déjà en 2022, on parlait déjà de ça. Donc, ce qui veut dire que c'est un plan qui ne date pas de maintenant. Et il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits justement au niveau groupe pour pouvoir essayer de rattraper les choses comme on pouvait. Mais comme j'ai dit, en termes de performance, on performait, on faisait les PNB, mais les charges augmentaient toujours. Et à un moment donné, il faille regarder de plus près. Il faudrait agir. Et c'est ce qui a conduit le conseil d'administration à pouvoir décider finalement avec la vision stratégique du groupe de pouvoir aller à cette plan de restructuration là pour assurer la viabilité de la banque sur le long terme. Et je peux vous dire que il y a énormément d'efforts qui ont été fournis, il y a énormément de décisions qui avaient été prises justement pour éviter qu'on en arrive là. Je peux pas parler de mauvaise foi, mais je disais tout à l'heure que chacun dans son rôle, le rôle du Saint-Banque et des délégués du personnel aussi, c'est de protéger les collègues, de protéger le plus de postes possible, et ils l'ont fait et ils continuent de le faire. On est très admiratif par rapport à ça, mais le groupe aussi est dans sa logique d'expliquer, et le groupe va continuer par expliquer le temps de fois que possible pourquoi est-ce qu'on devait en arriver là, parce que nous voulons que cette banque reste viable sur le long terme, et c'est pour ça que ces décisions ont été prises, décisions très difficiles, mais pour le bien de nous tous sur le long terme.
D'accord. Et c'est vrai que quand on parle alors de mesures d'accompagnement, il y a certains qui évoquent le paiement alors de soins 10 mois de salaire, bien sûr, alors pour c'est licencié, et que Sounou a payé 66 mois. Est-ce que c'est vrai?
Bon, je pense que à un moment donné, tout réside dans les discussions que les délégués ont ou bien ont eu ou auront avec avec la hiérarchie au sens sein du terme. C'est-à-dire que ce que nous savons, c'est que le groupe a payé jusqu'à 66 mois de salaire à certains collègues. D'autres ont eu 8 mois de salaire. Sur quels critères, moi, je ne saurais le dire, mais il appartient normalement à chaque collègue maintenant de voir est-ce que ce qui m'a été payé respecte mes aspirations, mes attentes, peuvent me permettre de pouvoir m'en sortir sur un court ou moyen ou long terme. Donc, le collègue maintenant peut aussi voilà, s'il se dit que n'est pas satisfait, il peut entamer aussi des discussions ou prendre les dispositions qui s'imposent à son niveau aussi pour pouvoir retrouver le niveau de compensation qu'il espère. Mais le groupe a en tout cas fait des propositions, et c'est sur cette proposition-là que le groupe est allé. Et effectivement, il y a eu des collègues qui ont eu jusqu'à 66 mois de salaire. Maintenant, après, est-ce que celui qui a eu 66 mois devait avoir 70? Moi, personnellement, je ne saurais le dire. Je ne sais même pas qui a eu les 66 mois de salaire.
D'accord. Donc, D'accord. Michel?
Oui, moi, je suis tellement peiné pour les agents qui ont été
licenciés.
Cette affaire-là, je pense qu'on a commencé à parler de ça il y a de cela quelques temps. On a laissé pourrir. Bon, aujourd'hui, quand j'ai appris que la grève a été évitée de justesse, je pensais que on a trouvé au même moment une solution pour les agents qui ont été licenciés. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Peut-être on a voulu désamorcer la bombe pour éviter la grève parce que les autres banques voulaient rentrer en action. Mais fondamentalement, pour les 43 personnes dont vous parlez, je suis vraiment peiné. Et comme il y a une commission qui est mise en place pour essayer de continuer les discussions, moi, je me dis que à la fin de ces discussions-là, peut-être on pourra trouver une solution. En tout cas, peut-être beaucoup plus meilleur que ce que nous voyons pour les gens là. Sinon, pour le reste, tout ce que nous sommes en train de dire ici, je vois que, bon, c'est peine perdue, hein, parce que, bon, la situation est déjà difficile pour les uns, mais ça doit aussi servir d'exemple pour les autres banques. Parce que, bon, généralement, quand vous voyez les gens là, dans les banques, vous voyez comment ils sont, non?
Comment ils sont?
Bon, nous, de loin, on n'a jamais imaginé que la manière dont votre posture là, derrière ça, il y a en tout cas des choses qui se passaient. Nous, on ne savait pas. Pascal, vous regardez les gens là, quand ils sortent, vous les voyez, non? Il faut que les autres banques quand même prennent des dispositions pour éviter ces genres. Parce que quelqu'un qui a déjà goûter au miel lorsqu'on lui demande désormais de sucer seulement du citron, ça va être difficile. Donc moi je dis seulement du courage à ces agents qui sont sur le carreau, dans les jours à venir les discussions puissent vraiment produire des résultats quand même satisfaisant pour eux. Sinon le reste, que bon, qui gagne combien, qui ne gagne pas combien, bon, on est déjà devant une situation. C'est comment gérer la vie de ces agents là parce qu'ils ont, vous l'avez dit tous ici, ils ont des familles derrière, et on sait quand en Afrique ici, quand vous travaillez, combien de mains, en tout cas combien de bouches sont derrière vous. Donc, vivement qu'une solution à long terme puisse être trouvée pour les agents là. C'est ce que je voulais juste ajouter.
D'accord, merci beaucoup Michel. Mais justement, je voudrais renchérir hein, par rapport à ce que Michel vient de dire, pour poser une question dans ce sens, bien sûr. Emmanuel, est-ce que déjà après le licenciement alors de ces 42 personnes, est-ce qu'on pourra dire que c'est un début de solution pour Sonu Bank?
Bon, il y a le licenciement fait partie d'un certain nombre de décisions qui ont été prises justement dans le sens de, d'assurer la stabilité, la pérennité de la banque. Nous y allons, nous y sommes, et puis nous allons en tout cas nous revoir d'ici un an, deux ans, trois ans, et ensemble nous allons apprécier. Mais je peux vous dire que c'est des décisions qui n'ont pas été prises d'un coup de tête, c'est des années de, voilà, d'audit, de discussion, de, voilà, de recherche de solutions, et que nous sommes arrivés à ça. Et donc, en début d'année, on a fermé cette agence sur toute l'étendue du territoire. Il faut dire que Sonu Bank est quand même fait partie des banques qui ont le plus grand réseau d'agences sur toute l'étendue du territoire. On en était à 29. Aujourd'hui, on est à 22 agences sur toute l'étendue du territoire. On est dans toutes les villes. Donc, fermer ces agences n'en ont pas véritablement un gros impact sur parce qu'il y a des agences relais aussi qui sont là pour pouvoir assurer. Donc on a vu tout ça. Donc le fait de se séparer de nos 42 collègues ou collaborateurs, qui est une décision vraiment très regrettable, comme le disons, et on n'est pas là pour véritablement, d'accord, pour nous, hein, c'est pas pour dire pourquoi on l'a fait, mais véritablement c'est de se dire que ça fait partie de tout un plan de restructuration.
Mais est-ce que ça veut dire que prochainement il y aura encore d'autres licenciements?
Non, pas du tout. En tout cas,
et c'est quoi la prochaine étape? Pourquoi c'est les autres, les 40 là, et pas les autres?
Mais je me suis posé cette question avec les critères, quand je parlais des critères.
Secrétaire général du Saint-Banque.
J'ai posé cette question, mais et Emmanuel n'a pas pu répondre.
Je pense que j'avais dit que c'est en fait.
On n'a pas évoqué ces critères.
C'est une restructuration où il y a des postes qui ont disparu. Il y a des départements qui sont mutés, qui sont changés. Donc, si vous êtes à la tête d'un département qui ne va plus exister, il est de soi que malheureusement vous soyez touché. Donc c'est en cela qu'il y a des managers qui ont été effectivement touchés, et on le dit, c'est vraiment regrettable, mais ça va dans le sens du plan de restructuration qui est en cours.
D'accord. Emmanuel, vous restez toujours avec nous. Je sais que il y a nos auditeurs hein, qui vous ont écouté, et là ils auront tellement de questions à vous poser, ça, soyez rassurés. Entre nous, nous allons continuer quand même le débat hein, par rapport aux différentes parutions et des sujets évoqués, surtout à la une alors des journaux. Oui, il y a des journaux qui sont dans les kiosques bien sûr ce matin. Il y a le journal Le Changement, le journal Chronique de la Semaine qui nous donne bien sûr ce sujet que dont nous parlons même d'ailleurs en début de semaine. Et le journal écrit: fonction publique, quand des batazas troublent la quiétude du ministère des Actions Sociales et de la Promotion de la Femme et de la Golf. Justement, Michel, c'est par rapport à ce phénomène qui s'est produit tout récemment alors au ministère de l'Action Sociale. Vous savez la suite, bien sûr, alors de cela, il y a la ministre qui a pris des décisions, et ces décisions, il y a même six décisions qui ont été prises hein, pour lutter contre cette violence ou ces violences basées sur le genre. On pourra dire quand même que c'est un début de solution.
Bon, elle a pris des dispositions. Est-ce que ça sera bien suivi? Parce que cette affaire de harcèlement sexuel, violence sexuelle dans les administrations publiques ou privées, nous avons débattu de cela il y a des années. Mais il y a des Balthazar qu'on n'a pas encore débusqué. Le seul, si on s'en tient à cette décision, est-ce que ça va servir de leçon pour éviter que ceux qui sont encore, parce qu'il y en a encore qui se disent que lui là peut-être il n'a pas bien fait, c'est pourquoi on l'a pris, nous on va continuer. Il y en a qui murmurent comme ça. Et est-ce que ça va être, parce que moi-même cette décision là j'aurais voulu que qu'elle soit prise à un niveau beaucoup plus élevé pour donner, je ne dis pas que là, ce que Madame la ministre de l'Action sociale a pris comme décision là, ce n'est pas fort, mais j'aurais voulu que ça vienne encore d'un niveau beaucoup plus fort pour alerter tous les Balthazar dans des coins cachés là que désormais ils auront des comptes à rendre. Et surtout que le monsieur dont vous parlez, qu'il est jeune, mais il ne faut pas qu'il
c'est le secrétaire général.
Oui, il ne faut pas qu'il décourage les hautes autorités à faire confiance aux jeunes dans des postes de responsabilité beaucoup plus élevés. Parce que si on les met, on va dire, si on vous met, voilà, vous allez bantaser, bon, on ne sait pas ce que vous allez faire là-bas. Il faut lui aussi, c'est qu'il a ce qu'il a posé comme acte, mais ça aura des répercussions parce que on veut, nous disons qu'on fasse la promotion des jeunes, mais s'il faut faire la promotion des jeunes pour qu'ils laissent des traces mauvaises comme ça, c'est pas bien. Et donc, vivement que la ministre de l'Action sociale puisse suivre ces mesures-là. Et pourquoi pas ne pas créer comment l'appelle-t-on là, une commission? Est-ce que c'est une commission? Ça dit que un groupe de personnes là pour veiller pour dans l'administration publique privée des gens,
des sentinelles
comme ça pour veiller, suivre le regard des gens, parce que ce qui s'est passé là c'est tellement grave, parce que les femmes ne sont pas des choses. Et on ne peut pas continuer comme ça à les réserver des situations. Vous voyez, il y a certaines, même quand elles quittent la maison pour le service, elles ont la peur au ventre, parce qu'elles ne savent pas comment son chef, avec quelle sauce son chef va la manger le jour-là. Il faut enlever, il faut faire en sorte que les gens enlèvent ces façons de faire là dans leur tête.
D'accord.
Et je n'ai pas lu toutes les mesures prises par le ministre de l'Action sociale, mais j'avoue que s'il y a d'autres, elle pourra en ajouter dans le sens de protéger toutes les femmes dans les bureaux, partout. Voilà.
D'accord. Oui, Magloire, c'est vrai que aujourd'hui des mesures, la ministre a publié ou a annoncé des mesures, hein, 6 mesures, mais au-delà de tout, on parle alors de la dénonciation chez la victime. Et il est très important que la victime dénonce, même d'ailleurs que c'est fait, mais toujours est-il qu'on ne retrouve pas cela alors dans nos rangs. On pourra dire aussi que l'éducation joue, notre environnement joue.
Mais bien sûr, c'est tout un ensemble de faits qui concourent à ça. Et c'est pour cela justement qu'il faut justement apprécier ces mesures prises par Madame le ministre à leur juste mesure. Mais la réalité, c'est qu'on a affaire à des humains avec leur pulsion. Ça existe, hein? C'est des faits à dénoncer. Mais on dira, vous prenez l'administration publique et privée même au Togo, mais je vous assure, on peut compter des milliers de Balthazar. Mm-hmm. La réalité, c'est bien ça. Et aujourd'hui, peut-être que Dame Nature a lâché le mise en cause. C'est pour cela, justement, qu'il a été pris dans la nasse. Mais ce qu'il faut faire, parce qu'il est question des mesures pour trouver des solutions pérennes, justement, à ce phénomène, je crois que au-delà de ce qu'on pense, il faut véritablement repenser, n'est-ce pas, les dispositions pratiques même de nos bureaux. C'est-à-dire que, vous voyez, je crois que je l'ai vu au niveau de... entre-temps, ARCEP, comment vous appelez ça,
au niveau même de l'OTN,
Togocom, OTN, je crois aussi. Ouais, c'est-à-dire que c'est un vaste bureau comme ça, où on a cloisonné avec des vitres. Des vitres. Comme ça, celui qui est au bout peut voir au bout également l'autre en train de travailler, ou soit il fait un autre travail. Voyez-vous, je crois qu'on doit tendre vers là, parce que des bureaux, quatre murs comme ça, mais ça donne pleinement la latitude.
Et puis avec des salles, je te coupe pas, avec des salles d'attente. On fait quoi avec les salles d'attente? C'est quoi cette histoire? Salle d'attente, là, c'est quoi?
Les invités.
Voilà.
Non, c'est peut-être c'est que pendant invités. Que vous non. arrivez, d'autres, quelqu'un d'autre est là. Mais pour faire plus sérieux, je pense que on peut entrevoir beaucoup de possibilités pour éviter ce qui s'est passé. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est, Michel l'a dit, c'est un peu, on va dire, la couche juvénile. Parce que aujourd'hui au Togo, c'est quand tu es jeune, c'est un délit. Vous voulez être bardé de diplômes, mais vous arrivez avec quelqu'un peut-être de la cinquantaine en attendant peut-être plus à le privilégier. Et aujourd'hui, les gens se battent pour que les jeunes puissent retrouver de la place dans les services publics et privés. C'est en ce moment où peut-être ce monsieur, il a trouvé le vilain plaisir d'exposer toute la jeunesse. J'ai dit non, qui plus est, c'est encore un secrétaire général d'un ministère. C'est-à-dire celui qui est le noyau même, la cheville ouvrière d'un ministère encore chargé de la promotion de la femme, voyez-vous. C'est pour ça que je dis, on a affaire à des humains. Et quand ça est comme ça, justement, Michel disait qu'il aurait aimé que la décision vienne d'en haut, c'est-à-dire le grand patron du pays, quand il tape du poing sur la table, je crois que ça aura plus d'effet. Et donc, c'est bien, on va... Ces mesures, ces six, peut-être, c'est pour solutionner dans l'immédiat, mais on ne va pas s'arrêter là. D'accord. Il y a les numéros verts, il y a tout ce qu'on peut ajouter, il y a même les dénonciations, parce qu'on n'a pas cette culture-là chez nous. Très souvent, vous allez voir que parfois, on viole même des jeunes filles, mais c'est les parents qui se retrouvent pour dire, mais si on en parle publiquement, ça va faire un sujet de honte pour nous, donc on gère entre nous. Non, il faut amener les gens à avoir cette culture-là de dénoncer. Cette dame, et qui a été victime, c'est parce qu'entre-temps, elle a dénoncé. Même si elle subissait ça depuis, à un moment donné, elle a dit, elle a dénoncé aujourd'hui le
poteau. Dénoncé surtout en accord avec son mari.
Et le poteau rose est découvert. Donc, il faut qu'on ait la notion de dénonciation. Dénoncer. Je crois qu'avec le temps, ça va dissuader.
J'estime que on en a beaucoup parlé du Balthazar. On va parler de la Balthazar aussi, parce qu'il y en a dans les bureaux. Celles qui portent des tenues qui excitent les hommes là. Il faut qu'elles arrêtent ça. Tu sais, je n'ai rien contre les femmes. Mieux, j'adore les femmes. Quand elles viennent au bureau, c'est pour se faire belle elles-mêmes d'abord. Mais il y a une concurrence entre les femmes elles-mêmes. Dans les banques, dans les assurances, dans l'administration, il y a une concurrence de vêtements, de tenues, le shopping, tout ça là. Il y a une concurrence. D'accord, là, on peut leur conseiller ça. La chevelure même, on veut que celle-là, elle s'est bien habillée. Mais il y en a d'autres femmes qui aussi le font pour attirer les hommes. Le DG doit me voir. C'est-à-dire que le chef d'agence ou le chef temps doit me voir. Parce que la question d'aimer quelqu'un, c'est une question, comment on dit ça, virtuelle. On ne peut pas le quantifier. Mais là, si un monsieur est aimé par une femme, la femme ne peut jamais draguer le monsieur. La manière dont elle doit faire pour draguer, c'est de porter des habits et envoyer des dossiers chaque fois au bureau. Et c'est quand, en sortant, le monsieur, les yeux étant la première. Et donc, faut pas ignorer cet aspect de la chose.
Oui, Amoura,
les femmes portent des jupettes, des tenues, vraiment, quand tu vois même, toi-même, le septième ciel doit exister. Mais c'est les femmes qui ont créé le septième ciel. Pour dire que, en réalité, l'homme est coupable. L'homme a une faiblesse, il faut reconnaître ça. Faut pas le disculper. Faut pas dire que l'homme.
Mais c'est en complicité avec la femme, c'est ce que vous voulez dire?
C'est souvent pas toutes les femmes. Il y a certaines femmes qui sont chastes. Hein. Elles viennent au bureau, c'est ça. Tu oses même lui dire ça? Moi je dis, c'est le comportement de la femme qui attire l'homme là. Mais un monsieur te dit, mais tu es belle, hein? Oui, merci monsieur. Mais si demain tu es, je peux avoir ton numéro. Une femme mariée ne peut jamais donner son numéro à un homme. Jamais. Une femme qui le fait, moi je dis, appelle ça, t'es lié, c'est du bœuf. Parce que tu ne peux pas donner ton numéro à moi, parce que c'est professionnel. Même professionnellement, il y a plein de collègues qui te dérangent, le harcèlement, c'est plein. À midi, on dit, on va aller manger quelque part, tu pars, alors que l'homme a cette idée-là. Donc, les femmes ont plus raison, mais elles aussi, elles jouent des fois le rôle. Et pas toutes les femmes. Il y en a une moindre partie. Elles viennent, le problème, c'est l'homme-là. C'est-à-dire que c'est l'homme-là.
D'accord.
Oui, la dénonciation doit être des deux côtés. C'est pourquoi, c'est ce que je voulais juste ajouter, s'il y a des femmes aussi qui se comportent de la sorte, il faut les dénoncer aussi.
Ouais.
Parce que c'est vrai, nous l'avons dit pour les hommes, mais il y a de quoi. Ambroise, merci qu'il a pu toucher ce point-là. Il faut, c'est de deux côtés aussi, hein, parce que mais c'est beaucoup plus pour les hommes. Hein, mais les femmes qui s'aventurent comme ça là, il faut les dénoncer aussi.
D'accord. Ok. Oui, on parle des femmes et il y a une femme quand même qui fait parler d'elle et ces derniers temps et surtout avec la situation sociopolitique à l'heure du pays, c'est bien Madame Marguerite Nyakade et vous le savez très bien, elle a fait une nouvelle sortie par rapport à cette manifestation annoncée sur le 30 août prochain et des journaux sont revenus hein, sur le sujet. Il y a le journal La Dépêche qui écrit ce matin, le journal écrit « Madame Nyakade soutient la marche du 30 août ». Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est le journal Le Changement. Le Changement qui écrit « Décidé d'en découdre avec Fonia Singbe, Madame Nyakade rassure qu'elle sera parmi les manifestants ». Et avec justement la photo de Madame Nyakade à la une du journal. Et autre journal qui a affiché même d'ailleurs Madame Nyakade à sa une comme justement c'est le journal Flambeau des démocrates. Magola, vous écrivez bien sûr hein, moteur ça tourne. Concrètement, qu'est-ce qui tourne?
Non mais c'est une manière pour nous de résumer un peu l'actualité tel que vous l'avez présenté depuis quelques temps, qui voit Madame Nyakade se retrouver, peut-être malgré elle, au cœur donc de l'actualité sociopolitique au pays. Et aujourd'hui, elle se retrouve la personnalité publique la plus en vue, parce que depuis 12 juin, elle n'a fait que répéter ses sorties publiques. Et chacune de ces sorties-là a cette manière, enfin, cette particularité de lancer des griffes à l'endroit de la gouvernance de M. Fonia Singbe. Et aujourd'hui, lorsque vous, ça fait sa quatrième sortie, la première c'était le 12 juin, elle est revenue à la charge le 28 juillet, et le 17 août. Et la dernière, c'est le mardi 26 août dernier où elle a porté justement son soutien à la marche citoyenne projetée sur le 30 août prochain. Alors, nous avons dit moteur, ça tourne, tout simplement parce que quand vous l'avez vu au départ, elle a mis dans le domaine public une lettre circulaire, voilà, une lettre comme ça qui n'était même pas signée. Et au premier abord, les gens spéculaient comme quoi c'était du fake, c'était pas elle. Et à sa deuxième sortie, elle a pris soin d'apposer sa signature sur la seconde lettre pour vous pour dire aux gens peut-être que vous vous en doutez, mais c'est bien moi. Et à la troisième sortie, elle est arrivée avec une vidéo où tous les Togolais ont vu véritablement que mais on ne se trompait pas. Et la quatrième, c'est celle-là. Et donc, vous allez voir que c'est en question, elle allait en crescendo. Alors on se demande, hier des lettres, aujourd'hui des vidéos où elle annonce même descend dans les rues pour marcher, mais on se demande, mais tel un moteur diesel, jusqu'où elle peut s'arrêter? Et au-delà de ça, on se pose la question, mais véritablement, qu'est-ce qui peut constituer justement la substance de son opposition vis-à-vis du système en place? C'est vrai qu'on peut faire partie d'un gouvernement, après on sort, on peut critiquer, mais la réalité c'est que chez nous aussi, on n'est pas ancré dans ces débats démocratiques. C'est-à-dire que chez nous, c'est quasiment impossible que vous fassiez partie de ce régime à un moment donné, vous sortez et vous vous opposez. Mais vous allez sentir vous-même, Monsieur Pascal Boudjona a tenté, il a même annoncé qu'il allait créer sa hutte, mais aujourd'hui il fait partie même des conseillers les plus en vue du chef de l'État. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette particularité, c'est que Monsieur, Madame Nyakade, qui n'a pas été n'importe quel ministre des armées, aujourd'hui s'oppose de façon frontale à la gouvernance de M. Fonia Singbe, c'est que ça doit poser des questions. Mais comme nous l'avons relevé dans notre éditorial la semaine dernière, c'est que forcément, elle doit avoir des motivations. Mais ce qui n'est pas rassurant, c'est que quand la femme se fâche, Eh bien, les secrets risquent de sortir.
Vous l'avez dit très bien sûr, quand la femme se fâche, la semaine dernière dans votre parution, et aujourd'hui vous revenez bien sûr pour dire que moteur ça tourne avec Madame Marguerite Niakade. Oui Michel, il y a une question que Magloire quand même a posée dans son intervention tout de suite, et cette question m'intéresse. Jusqu'où ira Madame Niakade?
Mais je ne suis pas sa porte-parole. Son porte-parole pour... répondre à cette question, nous tous aussi, nous croisons les doigts pour voir, parce que je l'ai dit la dernière fois, elle a commencé petitement, actuellement, elle a pris son envol. Bon.
Et vous avez dit même d'ailleurs qu'elle est dans les airs
maintenant. Elle est dans les airs. Magloire a dit quelque chose de très fondamental, que, au Togo, on ne place pas n'importe qui à la tête du ministère des Armées. C'est un portefeuille très important qu'elle a géré pendant près de 2 ans avant qu'elle ne soit sortie du gouvernement. Et si aujourd'hui elle est dans cette posture, mais c'est aux gens du Sérail de comprendre et d'analyser et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, ce n'est pas à nous de chercher à voir où est-ce que Mme Niakade veut aller. Je pense que ses sorties, ses vidéos et tout, elle a suffisamment dit ce qu'elle pense. Mais maintenant, on ne peut pas savoir concrètement. Aujourd'hui, elle vient d'appeler en tout cas, elle veut dire qu'elle va soutenir ceux qui veulent marcher le 30 août prochain. Mais on ne sait pas après qu'est-ce qu'elle dira encore. Donc, c'est rare, ce genre de position, parce que quand les gens sont aux affaires, quand ils sortent, c'est difficile qu'ils prennent la parole, et qu'ils prennent la parole pour dénoncer. C'est rare. Et c'est pourquoi beaucoup de Togolais, vraiment... sont aujourd'hui en tout cas regardent avec attention c'est sorti, parce que c'est rare de voir quelqu'un aller au gouvernement et plus est quelqu'un de la famille. Donc ça fait réfléchir.
D'accord.
Et je l'ai dit le jeudi passé, j'ai dit il revient aux gens du Sérail de savoir quelle réponse donner.
D'accord, merci voilà. Michel. Oui, Ambrose, en voyant justement ces sorties de Mme Niakade, finalement, on a l'impression qu'elle est engagée quand même à aller jusqu'au bout.
Oui, même si beaucoup de certains de nos compatriotes sont réservés sur le sujet, tous ceux qui sont proches du pouvoir sont très réservés sur le sujet, le cas de Bahara, par exemple. Je dis que Mme Niakade a été ministre 2 ans et ensuite elle est en train de dénoncer des faits de gouvernance dans son pays, parce que le pays lui appartient aussi, puisque Fonia Simbe et autres collaborateurs n'ont pas le titre foncier sur le Togo. Donc si eux ils ont un titre foncier, Magloire aussi en a un titre, moi aussi j'en ai, toi aussi tu en as, Michel en a. Et donc Madame veut marcher, toutes les actions qu'elle est en train de mener sont en train d'aller en crescendo. Ça monte les escaliers, comme on l'a dit la dernière fois. Et certains même sont curieux de la voir marcher. Et que l'énergie qui était sortie dans les 4 blanches, blanc là, la dernière fois, les gens veulent le voir aller mater Mme Niakade dans la rue. Et la dernière fois, le titre, rappelle-moi ton titre. Tu as dit que quand la femme se fâche, je prends la femme entre griffes. On veut voir Mme Niakade marcher. Pour que ceux qui ont l'habitude de réprimer là, n'ont qu'à réprimer.
D'accord,
on sait que nous sommes dans un régime qui est capable de tout. Hein. Mais le capable de tout là, on veut la résumer à Niakade pour voir le samedi là, pour voir ce que.
D'accord, merci. Merci Ambrose. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons donner maintenant la parole à nos auditeurs. Et c'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonces.
sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 115 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous sommes toujours avec Emmanuel Forkson, chef département marketing et communication de Sono Bank. Nous avons parlé alors de la situation justement qui prévaut dans la banque. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Bon, il y a des gens qui pensent que quand on a travaillé avec le pouvoir, et à un moment donné, il ne faut pas réagir. Il n'y a qu'à dire plus haut ce que d'autres du pouvoir pensent plus bas, dans les couloirs. On ne peut pas l'en vouloir. C'est la réalité. Quel Togolais ne sait pas que la vie est dure au Togo. Donc, on a qu'à la laisser tranquille. Elle parlait de toutoi. Comme on nous a refusé le pavé, on va battre les toutois. Donc, ça nous dit qu'on a qu'à nous laisser battre les toutois. Point barre. Et pour l'inviter, on parle de 66 mois. Alors qu'il paraît qu'il y a licenciés parmi eux, des gens qui ont à peu près un an avant d'aller à la retraite. Si ça fait 6 mois, ça fait 5 ans et quelques mois. Pourquoi ne pas laisser ces personnes aller jusqu'à terme de leur franchement, cette histoire, on aura la version de l'autre camp pour
justement, soyez rassurés. Nous allons inviter aussi les responsables de Saint-Banque et Sinassure dans cette émission et pour bien sûr avoir leur version aussi des faits. Allô?
Oui.
Bonjour, Pélé.
Oui, salut le patron, salut notre invité. Bon, en ce qui concerne la marche de 30 août, les organisateurs demandent de marcher les trottoirs. Je pense qu'il n'y aura pas un permis pour les marches. Quelqu'un qui veut quitter encore peu pour aller au grand marché, il va demander l'autorisation. Donc je pense que tout ça là, il faut que nos autorités respectent aussi la population. Et ce qui concerne Mme Nakadet, qui est une Togolaise comme les autres, a trouvé ou bien a choisi le bon côté maintenant de quitter la maison du mensonge pour rentrer dans la maison de la vérité. C'est-à-dire aux côtés du peuple affamé depuis le 13 janvier 1963. Je pense que tout ça là, si les Togolais sont aujourd'hui, si au moment où dans les autres pays on parle de troisième échangeur, quatrième échangeur, tout ça là, les Togolais sont toujours aux côtés de l'esprit rural. C'est dommage. Et quand nous avons le port le plus profond de la sous-région, et qu'on ne vend pas partout, et que la route aussi va amener les marchandises de quitter le port pour aller au nord, il n'y en a pas. Je pense que tout ça là, il va falloir que, avec cette décision de la population togolaise aujourd'hui,
d'accord. Oui, merci beaucoup, Pélé. Merci, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Allô?
Allô, Canal FM.
Bonjour.
C'est M. Ouyaou.
Oui, M. Ouyaou, depuis Ouimpé. Allez-y.
Bon, concernant le Balthazar du Togo, lui, ce que je connais de son dossier, c'est pas que je parle dans la bouche. Les femmes, il a détourné les femmes. Quand il t'appelle dans son bureau et que tu lui donnes les fentes barbues, elle te cherche un bon pouce. Mais quand tu refuses, elle te lance loin dans les villages. Ce que je dis, c'est parce que j'ai ma femme qui travaille, donc je connais. Ma femme qui travaille dans leurs choses-là, je connais tout. Donc, je ne parle pas dans la bouche. Ma femme m'a une fois dit de ces problèmes. Mais quand c'est sorti aussi, elle est venue lui raconter aussi.
Monsieur Yao,
oui.
J'espère qu'elle n'en était pas victime.
Non, elle n'est pas dedans. Donc, ce que je vous dis que c'est ça. Donc, concernant Nakadet, on dit ministre des armées et des anciens combattants. aussi un certain nombre, c'est-à-dire les anciens combattants doivent la soutenir. Quand elle était ministre là, elle savait que notre salaire, nous les retraités, leur ont dit que de ne pas dire nous. Les retraités avaient des salaires maigres. Elle attendait quoi à changer, c'est-à-dire les salaires des retraités. Actuellement, c'est elle qui a tout créé. Donc, moi là où je suis là, je ne peux jamais supporter Niakare.
D'accord.
Là
où elle est là. Merci beaucoup, monsieur Wiao. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Décidément, il n'a pas de retour. Michel, on va recevoir notre auditeur. Allô?
Et bonjour, monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
C'est Benoît?
Non, c'est monsieur Maké de Zanguera.
Ah, monsieur Maké de Zanguera, allez-y.
Oui. Je pense que les Togolais doivent laisser madame Niakadé tranquille. Hein. Ce n'est pas aussi facile d'avoir collaboré avec ce régime au Togo et après un temps de les dénoncer. Elle est courageuse. Bon, seuls les imbéciles ne changent pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle a été dépistée du gouvernement ou de quoi. C'est une affaire de confiance. Mais les Togolais sont tellement véreux que quand ils appellent... Bon, je ne sais pas ce que je vais dire. Où s'attaque à cette dame chaque fois qu'elle est retraitée, quoi. Et le régime qui fait 60 ans d'années, ils ont pu améliorer son salaire. Et c'est Mme Niakadé qu'il va attaquer chaque fois pour non, son sérieux dans ce pays. On ne peut pas vouloir une chose qui soit contraire à la foi. Elle veut le changement que tous les Togolais veulent. Donc, d'accord. Je vous en prie, ne vous en prenez pas à cette dame Niakadé.
D'accord, merci beaucoup, M. Maké. Bonjour, Pascal. Concernant la banque, il faut revoir le salaire et non le licenciement. C'est Agochi Kodjo qui nous écrit depuis Thiévier. Allô?
Oui.
Bonjour.
Oui, c'est Pélé qui revient.
Oui, Pélé, allez-y rapidement, oui, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ligne.
À ceux qui attaquent Mme Niakadé. Quand lui-même, il est fonctionnaire, pourquoi lui-même, la personne même n'a pas revendiqué? Il fallait revendiquer la personne même. Je dis, Mme Niakadé n'était jamais présidente de la République pour prendre des décisions. Je pense que c'est à partir de là qu'elle a compris tout bien. Il est temps d'espérer. Comme l'avait dit Dr. Adjomé, il est temps d'espérer. Quand la chose est... Quand ça ne va pas, il faut dire non. C'est tout. On peut être dans le RPT hier et devenir de l'opposition, il n'y a pas de souci. On voit déjà qui quitte l'opposition pour rentrer dans le RPT. Il est dans le RPT lui. On voit des gens qui vont défendre le RPT lui, bec et ongle aujourd'hui. Hier, ils étaient dans la rue. Je voulais parler de maître Gilles de la femme de vie. Qui était dans la rue à l'époque et aujourd'hui, il est dans le bleu. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est
d'accord, merci beaucoup, Pélé. On va recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Pascal, bonjour.
Oui, bonjour, Basile.
Bonjour, Pascal.
Oui, Basile, je vous écoute. Allez-y.
Ah, je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Bon, moi, ça ne m'étonne pas pour la banque. Même quand on l'a vendu, c'est pour que les Togolais en pâtissent. Comme d'autres sociétés de l'État, celui qui fait ça, lui fait ses choses à dessein. C'est ça qu'il faut savoir. Deuxièmement, je ne sais pas comment je vais remercier Mme Niakadé. Je témoigne vraiment une reconnaissance inouïe à cette dame. Il faut qu'elle continue dans ce sens-là. Elle était de moi, je suis retraité aussi. Ça fait plus de 10 ans. Je suis dans la 12e année, mais ce n'est pas elle qui devait me faire une bonne situation. Il y a des gens qui sont là depuis, c'est à eux de me faire la situation. Madame Niakadé n'en a pour rien.
Merci beaucoup, Basile. Basile, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. On lit cette réaction de cet auditeur rapidement. Bonjour, le plateau. La violence sur le genre ne concerne pas seulement les femmes, mais les deux sexes. Allez voir ce que subissent les subalternes hommes de la part de leur supérieur hiérarchique relatif à ses maîtresses concernant Sunu Bank. Ces agents licenciés le méritent. Ils se permettent de prélever sur les comptes
comptes épargne et les salaires des clients. C'est Malou Siba qui nous a envoyé ce message. On revient en plateau, chers confrères. Vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur justement cette actualité et aussi tout ce que nous avons. Des gens préféraient quand même se prononcer sur surtout la question de Madame Yakadé, c'est-à-dire ce qui concerne la vie sociopolitique à l'heure du pays. Ambrose, est-ce que vous comprenez quand même cela?
Bon, moi, je voudrais me prononcer sur la sortie de M. Ouyao.
Oui.
Et Ouyao qui disait que sa femme a fait tant et tant. C'est-à-dire, je voudrais juste, juste lui dire peut-être qu'il a la version de la femelle du cabri blessé, n'a pas la version du loup. Parce que si la femme fait, il ne viendra jamais lui dire ça. Maintenant, pour ce qui est de Mme Yakadé, moi je l'ai dit, Yakadé va marcher sur les trottoirs avec Amoron et autres, et tous les Togolais. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les Togolais eux-mêmes. Vous voulez vous libérer d'un régime qui est à 60 ans, qui vous fait souffrir. Vous avez faim, vous l'avez dit, vous vivez dans la misère. Maintenant, quand on vous dit de sortir, vous restez chez vous à la maison, et vous pensez que c'est Dieu qui viendra vous libérer. Détrompez-vous. Dieu même a dit, mets ça sur ton genou, et je vais t'aider à le mettre sur la tête. Maintenant, c'est un peu genou, Il faut mettre ça sur les épaules, avant que Dieu ne t'aide à l'emmener sur la tête. Si tu restes à la maison, mais ta souffrance va continuer. Si tu ne le fais pas, tu vas encore souffrir 10 ans, 20 ans, 15 ans. Les gens vont partir, c'est leurs enfants qui vont dans le passé. C'est l'objectif du régime en place. Donc, si les gens ne sont pas conscients que c'est son objectif, ils n'ont qu'à rester à la maison. Magula?
Non, je crois que ce qui est pertinent et qui, vous l'avez constaté, les auditeurs aussi ont plutôt préféré se prononcer sur les sorties de Mme Yakadé, c'est que quelque part elle a dit elle-même que oui, elle est de la famille présidentielle, mais après tout elle s'exprime comme un citoyen togolais et qui a toute la possibilité ou la latitude de se prononcer sur la gouvernance de son pays. Et quand vous allez voir, vous savez qu'elle a été directrice générale de la BTCI, donc c'est dans qui maîtrise également le terrain bancaire et de l'économie en général. Mais elle disait quelque part dans l'une de ses sorties que mais quand vous prenez le niveau d'endettement du Togo actuellement, que ça avoisine 70% du PIB national. Et qu'en réalité, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est que quand on a atteint un seuil comme ça, ça devrait constituer un levier de restructuration du pays. C'est-à-dire qu'on doit voir le Togo changer plus que ça, si tant est qu'on avait contracté des dettes jusqu'à ce seuil. Malheureusement, que l'argent atterrit plutôt ailleurs et que personne ne s'en soucie, et c'est ça le problème. Aujourd'hui, peut-être on a licencié nos compatriotes et tout, peut-être que entre temps, selon ce qu'elle dit, si les prêts et tout ça ont participé à gouverner autrement, je crois qu'on allait peut-être pas aussi assister à ça. Donc ce qu'elle dit effectivement concerne un peu tout le monde. Aujourd'hui, elle appelle à marcher le 30. Pourquoi? Peut-être pour que le Togo soit bien gouverné. Je pense que si on s'habitue un peu à cette diversité d'opinions, je crois que ça allait aider un peu la démocratie togolaise.
Merci beaucoup, Magloire. Oui, Michel?
Non, moi, par rapport au licencié de Sonou Bang, je crois fermement que la commission qui a été mise en place après la rencontre du ministre avec les partenaires, que cette commission-là puisse travailler profondément et pour voir, même après le départ de ces agents, s'il n'y a pas lieu de les orienter d'une manière ou d'une autre. Je ne prends pas la place de la commission, mais je souhaite seulement qu'elle quand même soit beaucoup plus compréhensible pour proposer peut-être quelque chose de, comme le ministre même de la fonction était au devant, proposer quelque chose de plausible.
D'accord.
Et capable de d'aider les en tout cas les collègues de monsieur
Emmanuel
à pouvoir en tout cas affronter la vie dans la sérénité.
D'accord, quoi. Merci beaucoup Michel. Oui, Emmanuel, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Merci beaucoup Pascal, merci à tous les collègues qui sont dans le studio. Je remercie le directeur général de Canal FM qui nous a permis de participer à cette émission. Mon mot de fin, c'est véritablement de demander à tous nos clients et futurs clients de continuer à faire confiance à Sono Bank Togo. Sono Bank fait partie d'un groupe puissant qui est leader sur la zone CIMA, sur tout ce qui est assurance vie. Et donc, du coup, c'est un groupe qui a les moyens de pouvoir, en tout cas, relever le niveau de cette banque-là. Et c'est des personnalités vraiment éminentes qui travaillent dans ce groupe et aussi dans le conseil d'administration. Et toutes les décisions qui sont prises vont dans le sens de pouvoir permettre à la banque de rester viable et de pouvoir continuer par servir l'intérêt de tous les Togolais. Donc, j'invite tous les clients à continuer par nous faire confiance. Nos agences restent ouvertes et nos gestionnaires sont toujours à disposition pour pouvoir aider pour tout problème. Si les clients ont des problèmes ou des demandes d'information, ils peuvent nous contacter sur notre numéro 8444 et nous avons des conseils qui sont disponibles pour pouvoir les recevoir.
D'accord, merci beaucoup Emmanuel. Emmanuel Forson, je rappelle que vous êtes le chef département marketing et communication de Sono Bank. Merci pour ces diverses explications que vous venez alors de nous donner. Mais je vous rappelle juste une tradition au Club de la Presse, c'est que c'est l'invité qui assure la troisième mi-temps. Alors pour l'émission, je pense que vous êtes prêt quand même à assurer la troisième mi-temps.
Oui.
D'accord. Merci. Alors là, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Ambroise Konzo d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal des Guadiens, Magloire Kinviteko. Merci d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates. Merci à Michel Tchadja d'être passé, directeur de publication du journal Le Roi, les Vainqueurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Gardez-moi ceci, la seule chose que la vie ne pardonne pas, c'est de l'avoir raté. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.